Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairies. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Et bonjour à tous en ce mardi, on est mardi, je croyais que bon, c'est la semaine a déjà commencé. Dans ce 10-10 avec Léonie qui est à la technique aujourd'hui, dans laquelle on accueille Philippe Pierrot, on va parler Shift Project. Shift Project, c'est un peu compliqué, non, comme terme, comme concept. Ouais. C'est national et c'est local, mais on commence déjà par le national.
C'est ça, donc. Le Shift Project, c'est une association présidée par Jean-Marc Jancovici, que beaucoup connaissent, ont déjà vu à la télé, à la radio, enfin bon, etc., qui travaille essentiellement sur la question de la décarbonation de l'économie, et qui, donc c'est un groupe d'une vingtaine de salariés, qui mène des études de fond, une étude sur l'agriculture, une étude sur l'aviation du futur, une étude sur l'automobile, l'évolution de l'automobile, enfin des études très techniques, très scientifiques et qui des rapports fouillés. Donc ça.
Décarbonation de la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à la neutralité carbone à l'horizon 2050, ce qui est les termes politiques du moment?
Ça, c'est l'objectif qui est affiché nationalement et internationalement, voilà. Donc, le Shift Project s'inscrit dans ce contexte-là. Essaye de tracer les pistes qui permettront, ou qui permettraient à la société d'atteindre cet objectif. Parce qu'aujourd'hui, des objectifs sont assez clairement définis, celui-là. Neutralité carbone en 2050.
Avec des paliers à 2030.
Avec des paliers à 2030. Si on projette les tendances actuelles, on n'est pas sûr d'atteindre ces objectifs.
C'est on est même certain dire. Du contraire, non?
Certains, on n'est jamais certain. Il peut y avoir des revirements de situation. Les derniers revirements de situation vont plutôt pas dans le bon sens, j'allais dire. Mais en tout cas, il peut y avoir des prises de conscience suffisantes qui permettent d'y arriver.
Et alors, décarbonation de la société, vous avez dit le shift, c'est national. Mais bon, l'objectif, il est global sur l'ensemble de la planète. Donc bon, la France, c'est une petite chose, non? Dans ce concert des nations et dans cet objectif ambitieux.
Oui, alors il y a des structures équivalentes qui existent ailleurs, enfin pas tout à fait équivalentes, mais qui existent ailleurs. Les Français, la France ne sont pas les seuls à se poser ces questions. Partout dans les pays, enfin, Greta Thunberg n'est pas française, etc. On peut trouver d'autres exemples ailleurs. Donc ce travail, ce cheminement, il existe ailleurs, il est international. Maintenant, c'est sûr que si la France était parfaite, si c'est ça la question, si la France était parfaite du point de vue de la sobriété carbone, ça ne résoudrait pas le problème mondial. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire sa part de travail, et à la fois parce qu'il faut que tout le monde le fasse, donc pourquoi pas la France, et aussi parce que dans un certain nombre de cas, il est bon éventuellement de montrer l'exemple. Je ne dis pas que la France aujourd'hui montre l'exemple, mais il est bon aussi de faire ça.
Et alors je continue le fil là-dessus. Bon, faire sa part pour la France, c'est bien, mais est-ce que la France ne doit pas faire plus que sa part? Parce que quand même, si on regarde un peu les bilans carbone des individus, je pense que le bilan carbone d'un Africain du continent, c'est quand même pas le même que le nôtre.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire
sans parler des Américains.
Oui, alors en moyenne, un Français produit à peu près 9 tonnes équivalent CO2 par an. L'objectif qu'on évoquait tout à l'heure, c'est d'arriver à 2 tonnes par terrien par an.
Donc, par terrien, c'est-à-dire que l'objectif global à l'échelle de la planète, c'est 2 tonnes. C'est donc il y en a qui peuvent monter, certains continents, et puis nous, on a sacrément intérêt à descendre.
C'est ça, donc nous, on a 9 tonnes, les États-Unis, c'est 3 ou 4 fois plus. On voit que, les pays d'Afrique centrale, c'est beaucoup moins, c'est quelques kilos. Voilà. Donc, on n'est évidemment pas tous dans la même situation. Donc les efforts des pays riches, entre guillemets, des pays développés, je ne sais pas comment on peut les appeler, sont bien sûr très important, et d'autant plus que c'est eux qui donc produisent le plus. Alors il y a la Chine aussi, hein, voilà. Donc bien sûr la France a un effort particulier à faire.
Et le Shift, lui, réfléchit aux bonnes pratiques ou au bon chemin, plutôt donc dans notre pays, la France, voire éventuellement en Europe, mais sur ce continent.
Le Shift Project travaille à l'échelle nationale, à l'échelle de la France.
Voilà. Groupe national avec, donc vous l'avez dit, une équipe de salariés qui fait des études très précises et qui très documentées, voilà. Et puis donc des bénévoles, plein de bénévoles partout en France, dont dans le Languedoc-Roussillon.
Oui, donc une association, j'allais dire sœur du Shift Project, qui est une association de 20 000 membres à l'échelle nationale et qui est structurée en groupes locaux. Donc ici, il y a un groupe local Languedoc-Roussillon, de Nîmes à Perpignan, pour faire simple, qui travaille à essayer de diffuser la bonne parole, reprendre les travaux du Shift Project pour les vulgariser, faire des conférences par exemple, des conférences grand public, des conférences dans des lycées, dans des écoles, à l'université, voilà.
Diffuser la bonne parole, alors bon, dans une radio comme FM+, du monde protestant, ça veut dire des choses. Donc, bon, voilà, c'est pas une religion quand même.
Non, c'est évidemment pas, non, bien sûr, ce n'est pas une religion. Mais simplement, l'idée, c'est d'essayer de diffuser les résultats des travaux menés par le Shift Project.
Alors, vous êtes combien en Languedoc-Roussillon et peut-être plus particulièrement, vous êtes combien sur Montpellier ?
Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, c'est une bonne centaine de personnes, voilà, qui travaillent, dans leur temps libre, consacrent une part de leur temps libre à tout ça. Et donc, ça veut dire des gens qui vont essayer de produire des petites présentations sur un thème donné, à partir des travaux du Shift Project, qui vont travailler, par exemple, comme c'était le cas en juin dernier, pour organiser l'université d'été
des shifters.
Donc c'était 2000 personnes qui sont venues à Montpellier pendant 3 jours pour travailler, écouter des conférences, des rapports, enfin bon, etc. Donc c'est tout ce travail-là, il est mené par des bénévoles, en fonction de la distance.
Alors, on en parlera plus précisément dans la deuxième partie, après la pause musicale, là, un peu qu'est-ce qui se passe sur Montpellier et au fond, qu'est-ce que vous attendez des élus qui vont sortir des urnes dans quelques semaines pour aller vers cette sobriété carbone dont vous parlez. Mais restons peut-être sur les sujets un peu plus généraux. Au fond, on pense à le carbone, on pense à la voiture, on pense à l'alimentation, qui sont sans doute les deux principaux postes de d'émission de gaz pour chacun d'entre nous.
Oui, alors presque tout bon là-dessus. Ah. C'est vrai. Alors c'est vrai que le plus fort poste d'émission, notamment localement, ce sont les transports. Transport, c'est la voiture, mais c'est aussi les camions, enfin bon, etc., les bus, enfin tous les transports. Ça correspond, sur la métropole de Montpellier, à 58% des émissions de CO2.
C'est énorme.
C'est énorme. Et le deuxième poste, alors c'est pas l'alimentation, c'est le logement et le bâti tertiaire, qui représentent 29% sur la métropole. Après, il y a des endroits où ces chiffres sont plus bas, parce qu'il y a plus d'industries, par exemple. Dans la vallée du Rhône, la part de la production de CO2 industrielle est plus importante qu'à Montpellier.
Ça tient. Voilà. Donc chaque territoire a à ses propres empreintes, j'allais dire, oui, d'émissions. Que ce soit dans les transports, vous dites que c'est le plus important. Bon, on voit bien ce à quoi ça peut faire allusion sur Montpellier. Et donc, dans les solutions un peu macro, qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour que les choses changent ? Encore une fois, avant de venir plus spécifiquement sur Montpellier.
Les solutions macro sur le transport, c'est d'une part l'électrification des transports.
Oui, voilà. On voit que ça marche pour le train, mais ça marche moins bien pour la voiture, non ?
Ça marche moins bien aujourd'hui pour la voiture, mais ça veut dire qu'il faut y travailler. Parce qu'il n'y aura pas de solution sans ça. Ou alors on arrête de se déplacer.
Au fond, vous dites, c'est l'électrification de la société qui fera qu'on tendra vers ces objectifs plus facilement. Ça veut donc dire vraiment l'extinction des énergies fossiles.
Alors c'est l'objectif. L'objectif qui est fixé, vous en parliez tout à l'heure internationalement, à 2050, c'est ça. Quand on dit objectif zéro à 2050, bah, ça veut dire ne plus utiliser de pétrole et de gaz, sauf quand c'est impossible de faire autrement. Mais quelquefois, c'est impossible de faire autrement. Dans un certain nombre d'industries chimiques, elles sont basées sur la transformation de pétrole. Bon, il y a un certain nombre de produits,
tous
on ne peut pas se passer.
Tous les plastiques dont on dispose, voilà. Ça vient du pétrole.
Alors, tous les plastiques dont on dispose viennent du pétrole, mais là, on peut travailler sur la quantité de plastique dont on a besoin. Ça, c'est un élément important. Donc, il n'y a pas que l'électrification. Il y a aussi être plus sobre sur un certain nombre d'éléments. Bah, par exemple, l'utilisation du plastique. Est-ce qu'on a toujours besoin de tout le plastique qu'on utilise? Si on y réfléchit un peu, on se rend vite compte
que non. Est-ce que les plastiques, c'est les emballages ou est-ce que c'est deux choses différentes?
Oui. Non, bah, les emballages, c'est très souvent du plastique. Ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait être du papier pour un certain nombre de cas. Enfin bon, des choses comme ça. Mais c'est... Les emballages, c'est majoritairement du plastique, oui.
Alors, on a parlé donc des transports, vous avez dit les bâtiments. Donc, là aussi, énorme chantier, c'est toute la rénovation énergétique, c'est toute... Ouais. Comment on diminue, en fait, les dépenses de chauffage et la question de la fraîcheur, puisque ici, dans le midi, dans le sud, maintenant, on a la question du
oui,
de chaleur.
Le chauffage et le froid, c'est le même problème. C'est-à-dire que c'est une question d'isolation et donc de rénovation thermique des bâtiments. C'est un des éléments. C'est une question de savoir comment on produit le chaud et le froid. Est-ce qu'on le produit avec, est-ce qu'on produit la chaleur avec une chaudière au gaz ou au fioul, ou est-ce qu'on la produit avec une pompe à chaleur? Voilà. Donc bah là, il y a un enjeu énorme pour transformer les modes de chauffage aujourd'hui des logements. En plus de l'isolation, etc., ouais. De la rénovation.
Quand vous dites pompe à chaleur, on pense assez facilement à de l'habitat individuel. Mais bon, les pompes à chaleur, c'est possible aussi dans du collectif.
Alors, c'est possible aussi dans du collectif. Alors, pour le collectif, il y a des solutions autres aussi qui existent. Hein. Les réseaux de chaleur, c'est des choses qui...
Donc ça, c'est les réseaux de chaleur urbains, c'est-à-dire ces tuyaux, ouais, qui courent à partir d'une centrale de production, voilà, et qui irriguent... une partie voilà, des bâtiments.
Donc ça fait partie des éléments. Il y a la géothermie qui fait aussi partie des éléments et qui est quelque chose qui, pour le collectif, là, fonctionne bien. Ça fonctionne aussi pour l'individuel, hein, mais pour le collectif, c'est des éléments qui fonctionnent bien.
Et le solaire, vous n'en avez pas parlé?
Alors, le solaire, mais évidemment, le solaire, là, il peut être utilisé, j'allais dire, à la fois à titre individuel. Ceux qui ont la chance d'habiter un pavillon peuvent installer des panneaux solaires pour résoudre
une partie de leur consommation.
Une partie de leur consommation. Il y a des possibilités de solaire collectif, c'est-à-dire où...
on mutualise l'énergie produite, voilà, on se la redistribue entre...
C'est ça, donc c'est des choses qui existent aujourd'hui. Hein.
Enfin, les centrales de village, ouais, des choses comme ça.
Ouais. Voilà. Après, il y a tous les bâtiments publics qui peuvent être équipés de panneaux solaires, bâtiments publics, mais ou privés, type parking, etc.
C'est les ombrières sur les grandes, oui, surfaces, oui.
Ou les toits des grandes surfaces, les toits de tous les grands bâtiments. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la solution, bien sûr.
Autre sujet, là, parce que, bon, je l'ai cité, c'était pas tout à fait par hasard, la question de l'alimentation. Bon, on mange trop de viande.
Ah, ça, c'est clair. C'est clair. Ça fait... D'ailleurs, le Sheet Project est en train de lancer une grande étude sur l'alimentation. Le Sheet Project a lancé il y a quelques... l'an dernier, une grande étude sur l'agriculture. Donc là, sur la production agricole, mm-hmm, en lien avec les agriculteurs. Quand je dis lancer une étude, c'est plusieurs milliers d'agriculteurs qui ont été interrogés sur leurs pratiques, sur leurs freins au changement, enfin bon, etc.
On en dit un mot, là, puisque peut-être vous êtes sur cette étude-là. Bon, ça dit quoi? Parce qu'on a le sentiment que tout le monde aimerait manger bio et bon, on va dire. Et c'est pas si simple, c'est plus cher. Et il y a quand même la grande culture ou l'agriculture intensive qui est encore de beaux jours. Enfin, on voit, ouais, les débats actuels autour du
secteur. Je ne suis pas spécialiste du secteur agricole à titre personnel, mais c'est clair qu'il y a à la fois une aspiration d'un nombre croissant de personnes, pas tout le monde encore, hein, aujourd'hui, hein, d'un nombre croissant de personnes à une alimentation plus verte, plus naturelle, etc., avec moins de pesticides, etc. Enfin, on voit la loi du plomb, par exemple, les réactions...
Bon, très fortes.
Voilà, très fortes. Et il y a en même temps une part de et donc il y a une part de l'agriculture qui est dans ce chemin-là. Il y a quand même un développement de l'agriculture biologique, par exemple, ou d'agriculture raisonnée, enfin bon, etc. Il y a tout un tas de termes et de modalités. Il y a un développement qui existe, mais il y a une résistance d'un certain nombre, enfin d'une part de l'agriculture, de grosses structures. Duplon insiste avec l'idée de réintroduire un certain nombre de pesticides. Donc, et c'est un autre type d'agriculture. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des évolutions encore à mener dans ce secteur-là, et avec la nécessité d'aider les agriculteurs pour cette transition. Parce que ce n'est pas si simple que ça de se dire je produis de manière conventionnelle et demain je produis en bio.
Alors, aider les agriculteurs, on a le sentiment, notamment parce qu'on a une politique agricole commune qui est un des fondements de l'Union, qu'il y a déjà beaucoup d'aides. Alors bon, est-ce qu'il faut réorienter ces aides? Et auquel cas, visiblement, on se heurte à des lobbies puissants.
Alors, je le disais, je ne suis pas spécialiste du secteur, mais les aides de la politique agricole commune vont très majoritairement à la grande agriculture, aux gros propriétaires, aux gros producteurs. Et pas spécifiquement au bio.
D'accord.
Donc c'est beaucoup plus limité. Donc il y a encore un travail à faire là-dessus.
Donc là, le citoyen habitant, consommateur, électeur, il est partagé entre son désir de mieux se nourrir et son portefeuille qui est sollicité par des produits qui sont quand même malgré tout plus chers.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est une des difficultés. Hein. C'est une des difficultés. Il y a cette difficulté-là. Il y a la difficulté aujourd'hui dans un secteur qui n'a rien à voir, mais dans celui des transports, où il est plus cher de prendre le train que de prendre l'avion.
Ouais.
Voilà, ça fait partie des incohérences de notre économie.
Et alors donc, vous pointez toutes ces incohérences, toutes ces tensions, donc d'une certaine manière, vous faites de la politique d'une certaine manière, parce que là, on est en plein dans des arbitrages qui sont faits, dans des rapports de force qui existent, et on voit bien que c'est sans doute pas si simple de les faire bouger. Donc c'est un plaidoyer que fait le Shift en permanence, en espérant que ça va emporter quoi? Les décideurs, les habitants, enfin les citoyens?
Mais j'allais dire l'ensemble, parce qu'il y a besoin que tout le monde bouge. L'idée, le Shift Project et les shifters ont vocation à parler à tout le monde. C'est-à-dire à tous les bords politiques, pour faire passer un certain nombre de messages qui sont plus ou moins entendus, plus ou moins à la bonne échelle, plus ou moins avec la bonne vitesse, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de porter ce message vers les décideurs politiques, mais aussi vers l'ensemble des citoyens. Donc, parce que cette prise de conscience des problèmes qui sont aujourd'hui devant nous, elle n'est pas encore complète. Si elle était complète, le problème serait sans doute en passe de se résoudre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Ouais. Et ça peut bouger ou, enfin, vous avez, j'imagine, l'optimisme chevillé au corps pour que ça bouge.
Ah, de toute façon, il vaut mieux.
Sinon, oui.
Voilà.
On éteint le gaz. On ouvre le gaz. OK. Et donc, vous êtes localement organisé. Vous avez dit plus d'une centaine de shifters. C'est quoi le profil? Parce que, bon, il y a des gens d'expérience, il y a des plus jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de devenir shifter aujourd'hui?
Alors ça, j'aurais du mal à répondre pour tout le monde.
Vous pouvez parler pour vous déjà, oui.
En tout cas, le profil, il y a chez les shifters, il y a de tout. Il y a des jeunes, il y a des étudiants, il y a des jeunes actifs, il y a des moins jeunes actifs, il y a des gens comme moi qui sommes à la retraite.
Jeunes retraités.
Voilà, oui, voilà. Et puis, donc, il y a vraiment tous les profils, des hommes, des femmes.
Ouais, c'est pas qu'un problème de bons hommes, un peu ingénieurs, un peu technophiles.
Pas du tout. Non, non, c'est vraiment très mixte, voilà.
Et intergénérationnel.
Intergénérationnel, voilà, avec des profils très divers, des gens qui ont fait des études poussées, des gens qui ont fait moins d'études, enfin bon.
Et alors comment ça se passe? Vous échangez entre vous? C'est une table de discussion ouverte? Vous auto-formez
Ouais, on travaille beaucoup sur des projets. Par exemple, on décide d'analyser l'impact de telle décision, et on va travailler par exemple sur le contournement ouest de Montpellier, sur le développement de l'aéroport. Ça peut être ça. On décide de rédiger des documents, par exemple dans le cadre de la campagne municipale de rédiger un document spécifique sur les mobilités à l'échelle de la métropole ou sur le logement à l'échelle de métropole.
On y reviendra dans quelques minutes. Ouais.
Et donc, on travaille, un petit groupe de gens, moi je suis intéressé par ça, et on travaille ensemble là-dessus. On produit donc aussi des documents. Ces documents, on s'assure de leur solidité en se tournant vers le Shift Project et aussi vers les copains au national des shifters.
Donc ce que vous faites, entre guillemets, ça passe par, j'allais dire, un contrôle scientifique, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas une validation ou un regard extérieur qui conforte vos propos.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on travaille avec, soit en intergroupes locaux.
Entre Perpignan et Montpellier, par exemple.
Voilà, ou entre Montpellier et Lyon ou Lille.
D'accord.
Voilà. On échange nos documents, on fait des analyses critiques, etc., pour s'assurer de la pertinence. De temps en temps, le Shift Project regarde un certain nombre de choses, pas systématiquement, mais voilà. Et donc, pour qu'on ait des documents qui tiennent la route et qui soient validés, quoi.
Je vous propose quelques notes de musique et on se retrouve après pour parler plus précisément de ce que vous attendez au fond des prochains élus dans les années qui viennent pour que Montpellier soit plus vivable, respirable, proche en chemin vers les objectifs de la neutralité carbone. Toujours sur l'antenne de FM+, sur le 91 de la bande FM, et puis vous retrouverez cette émission sur le site de la radio, aussi dans les podcasts de la matinale. On parle Shift Project ce matin, avec le Shift, Monsieur Pierrot, vous avez accueilli récemment plusieurs candidats aux prochaines municipales. On ne vous demandera pas votre avis sur leurs prestations, qui étaient forcément diverses, ni même sur le bilan de l'actuelle équipe. Mais bon, voilà, il y a une nouvelle séquence qui va s'ouvrir dans quelques jours, jusqu'à 33, puisque ce mandat municipal durera une année de plus, compte tenu des chocs des calendriers avec les élections présidentielles de 32. Vous attendez quoi c'est quoi les principaux challenges dans le territoire de la métropole? Alors on dit la métropole, c'est les 31 communes, mais dans la réalité des faits, c'est souvent le plus grand territoire parce qu'on a des interactions assez fortes, notamment en termes de mobilité, avec nos camarades de jeu des pays avoisinants.
Oui, c'est exactement ça. Bien, disons que si on veut s'intéresser à ce qui aura le plus d'impact à l'avenir, sur la production de CO2 et donc la décarbonation de l'économie, il faut avoir en tête quelques chiffres très rapidement, sans en donner beaucoup. Mais il faut savoir que sur la métropole de Montpellier, 58% des émissions de CO2 sont liées au transport, la voiture particulière, les camions, les bus, etc. Et 29% au logement et au bâtiment tertiaire. Donc ça veut dire que ces deux éléments-là, le transport et le logement, c'est presque 90% de la production de CO2 sur la métropole de Montpellier.
Je vais tenter une commune.
Voilà. Donc, si on veut agir pour décarboner l'économie, eh bien, il faut agir massivement sur ces deux éléments-là. Mais d'ailleurs, la métropole a déjà commencé à travailler là-dessus, puisqu'elle s'est dotée, comme toutes les intercommunalités, d'un plan climat.
Air énergie territoriale.
Voilà, c'est ça. Qui donne un certain nombre d'objectifs. Notamment, par exemple, de diviser par deux les émissions de CO2 sur le prochain mandat municipal.
Diviser par deux, mais c'est énorme comme,
voilà,
comme
chaleur. Diviser par deux. Et l'objectif d'ici 2050, pour donner des objectifs énormes, c'est de la diviser par 12. C'est ça, la réalité.
On va beaucoup pédaler, alors, si je comprends bien.
Oui, pas que, ça ne suffira pas. Pas que, ça ne suffira pas. Voilà. Et donc, la métropole, donc ça, c'est l'objectif défini.
C'est le chemin tracé,
voilà.
Qui est un chemin, vous l'avez dit, pour la métropole, mais qui est aussi, toutes les grandes villes ont aujourd'hui un plan climat,
bien sûr,
parce
bien
que
sûr.
Ce travail est
indispensable. Toutes les intercommunalités un peu grosses ont cette obligation. Donc c'est, voilà. Et donc, il y a cette obligation, dans ces objectifs, il y a, par exemple, 100% des transports en commun décarbonés à horizon 2030.
D'accord. Donc d'ici la fin du prochain mandat, voilà. Il faudrait qu'il n'y ait plus de... les bus, les trams, c'est déjà le cas, les trams, bon, mais les bus ouais. Avec le... Ils sont pas déjà au gaz en grande partie ?
Eh bien, le gaz, c'est pas décarboné.
Ah, c'est pas décarboné.
Voilà.
Donc, d'accord.
Voilà.
Donc ça veut dire éventuellement renouvellement d'un parc de matériel, ouais. ce qui est très conséquent, parce que bon, voilà, on connaît les trams, mais on sait la difficulté qu'il y a aujourd'hui à les remplacer, non pas que... Mais ça prend du temps, je veux dire. Et là encore, ça semble des objectifs extrêmement ambitieux.
Voilà, donc c'est des objectifs qui sont ambitieux. Voilà, donc ça veut dire que maintenant, il faut, on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'il faut transformer ces objectifs en réalité.
C'est ça.
Et donc, ça veut dire que si on veut avancer sur la décarbonation au rythme défini par la métropole, par exemple, eh bien, il faut agir fortement sur les transports. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites à Montpellier, notamment. Hein, mais il faut agir sur les transports. Ça veut dire accélérer le développement des bus tram, des bus à haut niveau de service, enfin, peu importe la technologie qu'on utilise. Il faut mailler le réseau de transport en commun au-delà de la ville de Montpellier, au-delà de la métropole même.
Et alors ça, c'est le projet de CERM, de Service Express Régional Métropolitain.
Et donc, ça veut dire qu'il faut que ce projet de CERM soit ambitieux.
Ouais.
Si on veut atteindre ces objectifs, il faut développer l'offre cyclable encore. On entend parfois dire qu'il y a beaucoup, que trop a été fait sur le vélo, mais en réalité,
pas assez encore.
Notamment dans l'interconnexion entre les communes de la métropole.
C'est-à-dire un grand réseau cyclable métropolitain.
Donc il y a des projets hein, autour de ça, mais il faut vraiment le réaliser.
Il faut les agir.
Voilà. Ça nécessite. Aussi, si on veut réussir à faire cette transformation, d'associer au maximum les citoyens aux décisions, pour essayer de faire passer les choses. Enfin, bon, ça fait...
Donc c'est beaucoup de pédagogie.
Il y a beaucoup de pédagogie. Enfin, c'est absolument indispensable.
Pédagogie ou association même des citoyens aux solutions. Ouais.
Non, mais les deux, bien sûr, les deux. Voilà. Ensuite, il faut...
Parce que, attendez, je reste un instant là-dessus, parce qu'en fait, bon... ce que vous dites, c'est on voit l'investissement ou le travail que doivent faire là où les collectivités, mais à un moment donné, ça rencontre les usages individuels. Voilà, on prend sa voiture parce qu'on n'a pas peut-être d'alternative à la voiture, ou en tout cas d'alternative qui soit suffisamment attrayante pour qu'on accepte le fait, par exemple, d'avoir des ruptures de charge et de changer de mode de transport.
Oui, alors il y a ça. Ça veut dire que ça, c'est encore une responsabilité de la métropole, en l'occurrence localement, d'essayer d'éviter ces problèmes-là. Mais il y a aussi des choix, beaucoup de choix personnels. Est-ce que je prends ma voiture pour aller acheter le pain à 2 km ou est-ce que j'y vais à vélo ? C'est des choix du quotidien de tout un chacun, d'entre nous.
Et ça, c'est très important ce que vous dites, parce que bon, dans une société où on a aujourd'hui sans doute l'habitude d'être un peu trop consommateur, on doit être aussi acteur. Et là, vous rappelez, les travaux du Shift rappellent le fait que c'est des comportements collectifs, mais c'est aussi des comportements individuels.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah, tout est lié, c'est-à-dire que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Après, du point de vue des acteurs politiques de la métropole, il faut faire attention à ne pas ruiner les gains qu'on pourrait faire en décarbonation, en réalisant, en développant le vélo, en développant les transports en commun, etc.
Électrifié, ouais.
En faisant de mauvais choix par ailleurs.
C'est-à-dire ?
Mais, par exemple, si on décide de mettre, de réaliser le COM, c'est décidé.
Hein ? Contournement ouest de Montpellier. Vieux chantier qui a 30 ans. L'idée a 30 ans et la réalisation tarde.
L'idée a 30 ans. Et la réalisation aujourd'hui, c'est un projet autoroutier pour relier les deux autoroutes.
La 75 voilà. À la 9. Ouais.
C'est ça. Et donc, ce projet-là, toutes les études d'impact le montrent. Dès qu'on crée des routes, on génère de la circulation. Et donc, ce qu'on appelle le trafic induit. Mais ça, c'est une donnée, c'est pas quelque chose qui est discutable, c'est internationalement connu, tous les scientifiques qui travaillent sur la mobilité
connaissent ça. Et là, vous n'êtes pas d'accord avec les études de M. Vinci, si je comprends bien.
Ça c'est clair, enfin, il n'y a pas d'études de M. Vinci d'ailleurs, donc c'est bien ce qu'on reproche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude d'impact qui est faite, d'étude d'impact en CO2 qui est faite sérieuse quand on fait ce type d'aménagement. Ça n'est pas fait. Et donc, ça par exemple, l'estimation qui est faite par les shifters, le groupe local des shifters, c'est que simplement ce COM va avoir pour impact d'annihiler tous les efforts qui ont été faits ailleurs en termes de production de CO2. Voilà. Donc ça, c'est un choix qu'il faut
assumer.
Qu'il faut assumer. Pareil, développer l'aéroport, ça veut dire développer le trafic aérien. Et c'est un choix qui n'est pas neutre en termes de production de CO2. Vous allez me dire,
l'aéroport... Donc les élus doivent gérer ces contradictions.
Voilà. Alors l'aéroport n'est pas sur la métropole.
Oui, mais il est sur le territoire.
Il est sur le territoire, mais ce n'est pas la métropole, donc ce n'est pas une décision de la métropole.
Ce n'est pas une décision que de la métropole. Enfin, en tout cas, la métropole, il y a une petite part, mais bon,
c'est ça.
Modeste.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir une vision
systémique.
Entre intercommunalités sur ces questions-là.
Voilà. Et on n'y est pas encore, de votre point de vue ?
Pas suffisamment. Pas suffisamment. Okay.
Et vous pensez que là, les élus, ils sont prêts à ce genre de travail ou ils sont prisonniers aussi de toute une série d'autres contraintes ? Parce que, comme vous le dites, le COM, il a 30 ans d'âge et
on ne sait pas
l'arrêter pour l'instant, apparemment.
Non, mais c'est très compliqué. Hein. Ouais. C'est très compliqué. La situation des élus est compliquée là-dessus.
Restons un peu sur les gestes un peu plus individuels, là, dans les 3-4 minutes qui nous restent. Je reviens sur cette idée d'alimentation ou d'autosuffisance alimentaire. C'est un terme qu'on emploie souvent. C'est quand même un peu un fantasme. Un territoire ne peut pas être autonome en termes de production alimentaire. Mais bon, qu'est-ce que vous avez travaillé ces questions de l'agriculture urbaine et périurbaine ?
Oui, alors aujourd'hui, évidemment, le territoire de la métropole de Montpellier, par exemple, n'est pas du tout en autosuffisance alimentaire.
Non.
C'est la production locale sur la métropole couvre en gros 2% de la consommation locale.
Bien sûr. Donc on dépend des territoires adjacents.
On dépend des territoires adjacents et plus qu'adjacents.
Bien sûr. Bon,
Beaucoup d'importations, beaucoup de production qui est faite ailleurs, etc.
Mais on pourrait essayer d'améliorer l'autosuffisance vivrière, au moins dans le grand territoire.
Les shifters recommandent de développer ça. Il y a toute une série de travaux qui montrent que localement, chaque territoire, je ne parle pas de métropole, etc., mais chaque territoire doit s'emparer de cette question de la production agricole locale. Et donc ça, c'est une des responsabilités.
Il nous reste vraiment peu de temps, et c'est bien dommage, parce qu'on aurait pu discuter extrêmement longuement. Est-ce qu'il y a une adresse où on peut rejoindre le Shift Project local, si on est intéressé ?
Eh bien, il suffit de taper sur Internet Shifter.
Montpellier,
voilà, on va trouver ça. Ou si on est intéressé par quelque chose de plus national, d'aller voir sur le site du Shift Project.
Et vous avez des rendez-vous réguliers, vous accueillez les nouveaux, si je puis dire ?
Très régulièrement. Dès que les gens vont nous avoir contactés là-dessus, on se charge de les accueillir. S'ils veulent, il y a tout un dispositif, y compris d'auto-formation sur les thèmes qu'on choisit, etc. Donc
on peut compter sur vous dans le mandat qui vient pour être des observateurs vigilants un peu de l'engagement des élus.
Ah oui, bien sûr. Et donc, évidemment.
Eh ben, on aura sans doute l'occasion de se retrouver sur cette antenne dans les mois et les années qui viennent. Merci de nous avoir rejoints pour ce 10-10 qui se conclut pour ce matin. Demain matin, Autre invité, autre intervieweur, autre sujet, c'est les 10-10 tous les matins sur l'antenne de FM+. Et merci à Léonie d'avoir été vigilante sur nos niveaux sonores.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.